Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Nous allons continuer sur l'Apocalypse. Et ce livre de l'Apocalypse, c'est vraiment un livre absolument extraordinaire. Nous savons que c'est le livre qui clôture la parole de Dieu. Et nous avons déjà bien avancé dans ce livre. Mais là, nous arrivons et nous avons déjà commencé cette période de la tribulation qui va vraiment être une période très particulière et Dieu nous en donne beaucoup de détails dans le Nouveau Testament. Mais je vous rappelle que quand nous lisons l'Apocalypse, il faut toujours voir une chose. Que c'est l'histoire du royaume qui va être restauré et instauré par Dieu sur la terre. Lisez vraiment l'Apocalypse comme cela. Bien sûr, il y a beaucoup de détails, de choses difficiles que les hommes vont vivre. Parce que Dieu va juger la terre. Il va juger les hommes. Mais l'Antichrist n'est pas l'issue de l'Apocalypse. La tribulation n'est pas l'issue de l'Apocalypse. L'issue de l'Apocalypse, c'est nous, le peuple de Dieu, de toute langue, de tout peuple, de toute ethnie, de toute race, de toute couleur, qui avons choisi de l'aimer et de le servir. Nous allons régner avec lui sur sa propriété. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est toujours ça qu'il faut avoir dans le cœur. Nous avons vu que l'Apocalypse dit révélation, connaissance, qui est caché, qui est dévoilé, c'est ça ce que ça veut dire. Et Dieu nous a donné les trésors de sa sagesse, de sa connaissance. Dieu nous montre ce qui va se passer dans l'éternité. Et tu as été sauvé, non pas pour chauffer une chaise d'église, mais tu es amené dans un voyage extraordinaire dans l'éternité. Et là aussi, tu dois toujours comprendre que ce voyage, Dieu a choisi de t'emmener avec lui dans son voyage. Et nous passons un temps sur la terre, mais ce n'est même pas un atome dans tous les océans. Parce que l'infini par rapport à quelque chose qui est fini,
eh
bien ça reste toujours infini. Les mathématiciens, vous le savez. Donc nous avons vu qu'au début, Jean reçoit cette révélation, il voit Jésus. Jésus se révèle comme étant glorifié. Jean tombe sous la puissance de Dieu. Ça c'est chapitre 1, chapitre 2 et 3, nous avons vu le message aux sept églises. Et puis, Dieu nous donne un message. Le Seigneur nous donne un message sur les différents types d'églises ou ce qui peut se passer dans les églises. Et ça nous a beaucoup instruits. Au chapitre 4, d'un seul coup, tout va changer. À partir du chapitre 4, nous ne voyons plus l'église, on ne parle plus d'église. Mais le chapitre 4 nous donne une révélation extraordinaire sur le ciel. C'est la plus belle description précise de ce qui se passe au ciel. Et c'est ce que tu verras. Le jour où ton cœur va s'arrêter de battre. Le jour où ton corps biologiquement va mourir. Tu vas être sujet à la loi de Dieu. Ton esprit et ton âme vont partir. Et tu verras exactement ce qui a marqué dans l'Apocalypse chapitre 4. Tu verras le trône de Dieu. Tu verras ce qu'il y a autour du trône. Tu verras les chérubins. Tu verras les 24 trônes. Tu verras la Jérusalem céleste. Tu verras tout ça. Tu verras tout ce qui est décrit.
Entre
dans
le
chapitre 4. Au chapitre 5, nous savons d'un seul coup, il y a un livre. Un livre qui est scellé de 7 sceaux. Et personne n'est digne d'ouvrir ce livre. Et là, Dieu nous révèle quelque chose de prophétique. Parce qu'à ce moment-là, seulement l'agneau,
Christ,
sera le seul digne d'ouvrir ce livre. Et d'enlever les 7 sceaux. Et les 7 sceaux, ce sont des choses qui sont déterminées d'avance. Qui vont se produire sur la terre. Et en fait, à partir du début du chapitre 6, eh bien, on voit qu'il va y avoir le déclenchement de la tribulation. Donc, nous avons étudié le déclenchement de la tribulation. Mais pour cela, nous avons posé des fondations. Parce que sinon, on ne peut rien comprendre. Si vous lisez l'Apocalypse comme ça d'un seul trait, et que vous n'avez pas suffisamment de fondations,
bah,
vous allez interpréter tout et n'importe quoi. Ou alors, vous allez vous laisser tromper par des gens qui cherchent à vous faire peur. Mais l'Apocalypse ne nous fait pas peur. Au contraire, c'est nous qui sommes dans la gloire avec le Seigneur à régner pour l'éternité. C'est l'objectif de l'Apocalypse de nous montrer notre espérance vivante. Et donc là, nous avons dû mettre trois fondations importantes. D'abord, nous avons parlé de l'enlèvement de l'Église. Parce que nous avons vu que Jésus va d'abord revenir une première fois pour son Église. Puis Jésus va revenir une deuxième fois pour Israël. Donc l'enlèvement de l'église, Jésus revient pour son église, la première phase de la première résurrection est opérée. Et nous avons remarqué que cela va choquer le monde. Tous les chrétiens vont partir. Et la tribulation va commencer. Et je vous rappelle que la tribulation n'est pas l'œuvre du diable, n'est pas l'œuvre des hommes. Mais le déclenchement de la tribulation, c'est l'enlèvement de l'Église. Et la tribulation, c'est l'œuvre de Dieu. Dieu va venir juger les incroyants. Dieu va déclarer la guerre ouverte aux hommes qui ont refusé de croire en lui. Mais certains auront encore une chance de se convertir pendant la tribulation. Mais il va se passer beaucoup de choses pendant ces 7 ans. Dieu reprend son ambassade, parce que je vous rappelle que quand vous déclarez la guerre à une nation, vous retirez vos ambassadeurs. Vous dites à tous les nationaux, partez.
Tous
les gens qui vous appartiennent. Et c'est ce que Dieu va faire. Donc il va nous enlever. Nous avons expliqué tout cela. Et nous serons 7 ans bien au chaud au troisième ciel avec le Seigneur. Là nous avons vu, deuxième fondation, c'est le tribunal de Christ. Et là c'est le tribunal de récompense. Ce que nous aurons fait dans notre corps. Pour la gloire du Seigneur. Sans en prendre un brin de gloire. D'obéir au Seigneur dans l'humilité et la simplicité. Dieu révélera nos cœurs pour chaque action et il gardera ce qui est précieux à ses yeux. Et seulement sur ça, nous aurons des récompenses. Et je vous ai montré que la parole sous-entend très largement que nous allons briller d'une lumière différente, d'une gloire différente selon notre récompense. Ce que Dieu aura jugé qui est notre récompense. Et ça paraît très clair, ça transparaît dans la parole de Dieu. Et nous allons régner après. Nous allons régner avec un double règne.
Tuzoganza dufise inganje mu buryo bubiri.
Le premier règne, c'est le règne du millénium. Ubwambere n'inganje yo muri ya myaka igihumbi. C'est là où le Seigneur va régner à Jérusalem, nous allons l'étudier un peu plus tard.
Izoganza Yerusalemu tuzovyigako.
Et nous régnerons avec lui.
Tuganzanye nayo.
Nous régnerons sur qui?
Tuganze hehe.
Vous le saurez.
Muzobimenya.
On a des explications dans la parole de Dieu.
Hari cyo jambo y'Imana ribivugako.
Et ensuite, nous avons aussi le règne éternel.
Hanyuma hazoba n'inganje ibihe bitazoshira.
Et là, Dieu recréera toute la surface de la terre.
Ahimana izosubiramwo isi.
Recréera des nouveaux cieux.
Ishiraha majuru mashasha.
Et là, Dieu sera tout en tous.
Hanyimana ibe byose muri bose.
Tout sera Dieu.
Byose bibimana.
Et Dieu sera tout.
Kandi Imana ibe muri byose.
Tout sera parfaitement touché par la gloire de Dieu.
Byose bizoba byakozweko neza byatunganijwe n'ubushobozi
bw'Imana. Aucun péché, aucune désobéissance.
Ntacyaha,
aucune mauvaise pensée.
Ntaciyumviro kibi.
Rien.
Nta kintu na kimwe muri ibyo byose.
Ne sera touché.
Kizoba cyarakozweko.
Par la corruption du péché.
Nicitwa
ukubora kwica. Nous serons dans un environnement parfait.
Tuzoba turi mu kirere cyiza.
Nous serons parfaits.
Turabantu batunganye.
Servant un Dieu parfait.
Dukorera Imana itunganye.
L'idéal parfait.
Nukuvuga ngo bya bindi byiza Imana.
Dieu réalisera son rêve avec nos frères et sœurs.
Imana izoshitsiyo ndoto yayo.
Ce qu'il voulait faire avec Adam et Ève.
Icyo agombye gukorana
natwe. Il le réalisera avec nous.
Izogikorana natwe.
Sans aucune possibilité.
Atakajyo gahari na gato.
De pouvoir recommencer la vieille histoire avec Adam et Ève.
Ko gushobora kuba muri cyakindi Adam na Ève
bagwa. Parce que rappelez-vous que votre corps.
Wibuke umubiri wawe.
Votre corps.
Umubiri wawe.
Sera un corps incorruptible.
Uzoba ari umubiri utapfa.
C'est-à-dire qu'il n'aura plus péché. Il n'aura même plus d'envie de pécher. Aujourd'hui, si tu es attiré vers le péché, si tu as des combats avec des mauvaises pensées, c'est parce que ton corps a hérité de la corruption du péché. Donc, tant que tu es dans ce corps, tu as une chair. Et tant que tu as une chair, eh bien, tu es attiré. Parfois vers de mauvaises choses. Donc, ensuite, nous avons vu que à ce moment-là, eh bien, il allait y avoir la dernière semaine d'année de Daniel. Qui allait s'accomplir. Et là, nous avons été obligés de regarder toutes les prophéties du prophète Daniel. Et dans ces 70 semaines d'année. Nous avons vu, et je vous ai expliqué, je vous le dirai encore régulièrement, que tous les prophètes de l'Ancien Testament ne voyaient pas le temps de la dispensation de l'Église. Daniel est celui qui a reçu le plus de prophéties sur la fin des temps. Nous allons faire référence à son livre. Continuer à faire référence à son livre. Et nous avons étudié Daniel 2. Vous vous rappelez de la statue? La statue, il y a quatre empires qui vont se succéder. Et la petite pierre qui se détache sans le secours d'aucune main. Qui frappe les pieds de la statue. Les quatre empires qui se succèdent. Babylonien. Médépers,
Abamedinabapéres,
Grec,
Abagiriki,
et bien sûr Romain.
Hamanabaroma.
Et là, le dernier empire,
ubwami bwa nyuma,
est séparé en deux, les deux jambes,
bugabuyemo kubiri amaguru abiri,
et il y a 10 orteils.
Hakaba namano icumi.
Et ces orteils sont faits à la fois d'argile et mélangés avec du fer.
Ayo mano rero akaba akozwe ukuntu avanze ibumba n'icuma.
Et nous avons cette petite pierre va venir frapper les 10 orteils.
Ça va être
les 10 nations qui vont s'associer pendant la tribulation. Et au bout d'un moment, cette petite pierre frappe la statue. Et c'est le symbole de tous les systèmes de ce monde qui vont s'écrouler. Parce que de cette petite pierre va naître un royaume éternel qui ne sera jamais renversé. Parce que c'est le royaume de Dieu et qui viendra s'établir. Frères et sœurs, rappelez-vous à chaque fois que quelqu'un naît de nouveau, il entre dans le royaume de Dieu. Il entre dans le royaume éternel par lequel Jésus va venir régner et nous régnerons avec lui.
Ce
n'est pas compliqué à comprendre. Il faut toujours avoir cette vision globale de ce que la parole de Dieu nous montre. Puis ensuite, nous avons vu Daniel 9. Donc les 70 semaines d'année Daniel. L'objectif étant de récupérer la gestion des systèmes de ce monde, d'établir une justice éternelle. D'abord, en partie à Jérusalem,
ubwambere Yerusalemu
et après dans sur la terre entière.
Hanyuma no kwisi yose.
Et les, nous avons vu que il y a 69 semaines d'année.
Twarabonye ko hari amayinga y'imyaka 70
qui se sont écoulées.
69 yaheze.
Et non, jusqu'à ce que le Messie soit retranché. Donc Jésus qui meurt à la croix. Là le problème, c'est que quelle que soit la prophétie de l'Ancien Testament que vous allez lire, même dans les évangiles, et particulièrement Matthieu 24, eh bien cela va nous parler d'un temps de tribulation, mais qui ne va pas être continue avec le retranchement du Messie. Il va y avoir une coupure. Cette coupure, c'est le temps de l'Église. C'est la dispensation du mystère. Éphésiens chapitre 3. Et cette dispensation du mystère n'était pas prophétisée dans l'Ancien Testament et n'a pas été expliquée même dans les évangiles. Ce qui fait que pour Israël, pour les prophéties de
Daniel,
l'horloge prophétique qui a commencé quand la reconstruction de Jérusalem s'est opérée, 483 ans avant le retranchement du Messie, l'horloge a continué à tourner. Mais elle s'est arrêtée avant la dernière semaine. Et là, il y a la coupure du temps de l'Église. Quand Jésus va venir prendre son Église, les sept dernières années, qui s'appellent la tribulation, vont commencer. Et c'est là où l'horloge prophétique, à partir de l'enlèvement de l'Église, donc à partir du début du chapitre 6 de l'Apocalypse, c'est là où l'horloge prophétique pour Israël recommence à tourner. Et ces sept dernières années, Dieu nous en donne beaucoup de détails. Nous allons continuer avec Apocalypse chapitre 6. Et nous allons lire les premiers sceaux qui vont se déverser de la colère, du jugement de Dieu. Rappelez-vous bien. Ce sont des jugements que Dieu va envoyer sur la terre. Je vous rappelle que tant que nous sommes dans le temps de l'Église, parce que ça c'est tellement ancré chez les chrétiens, tellement prêché par les prédicateurs, tellement enseigné dans les livres, que Dieu envoie tel jugement ou telle chose sur la terre aujourd'hui dans le temps de l'Église, eh bien non. Et nous sommes dans le temps de la grâce. Chaque pécheur, quel qu'il soit, d'où qu'il soit, même dans les pires profondeurs de son péché, s'il crie à Dieu, Dieu va lui pardonner en Christ. Nous sommes dans ce temps, frères. Dieu ne juge aucune nation aujourd'hui. Dans le Nouveau Testament, vous ne trouverez rien qui montre que Dieu juge une nation. Vous le trouverez dans l'Ancien Testament. Dieu a jugé la terre avec Noé, nous l'avons vu. Nous avons vu que même dans le temps d'Israël, l'Égypte a été jugée par Dieu. Directement, les 10 plaies d'Égypte, c'était des jugements de Dieu sur la nation de l'Égypte. Et Israël a pu sortir avec puissance. Ensuite, quand vous lisez le temps des rois, les temps où Israël va marcher avec Dieu, Dieu va défendre sa nation, son peuple, en jugeant des nations. Vous avez des guerres qui sont gagnées où les Israélites n'ont même pas été quasiment au combat, parce que Dieu jugeait les nations. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le temps que la Bible appelle le temps des nations. Et le temps des nations, c'est Dieu qui offre sa grâce. Jésus qui tend ses mains d'amour. Ses mains qui témoignent de son sacrifice. Ses mains percées. Et qui dit à chaque pécheur, tu peux te repentir. Tu peux recevoir la vie éternelle. C'est un don gratuit. C'est ce que Dieu offre. Et il ne juge pas les nations. Par contre, à partir d'Apocalypse 6, ce ne sont pas des démons qui viennent attaquer les nations. Ce sont des anges de Dieu qui viennent frapper directement les nations du monde, le monde entier. Donc ça, je tiens encore et encore et encore à le préciser. Parce que nous allons nous enfoncer de plus en plus dans des catastrophes qui vont être des jugements directs de Dieu. Mais il va y avoir aussi des réponses sataniques où l'ennemi va commencer à venir pour essayer d'attirer, de séduire un maximum de gens. Et nous verrons. Quand nous lisons l'Apocalypse 6 et que nous lisons Matthieu 24 en parallèle, nous retrouvons à peu près les mêmes étapes. Je regardais quand l'agneau ouvrit l'un des sept seaux et j'entendis l'un des quatre êtres vivants. Je vous rappelle que c'est un chérubin autour du trône de Dieu qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens, verset 2. Je regardais, voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc et une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre, verset 3. Quand il ouvrit le second seau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens !» Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix sur la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand nous lisons déjà ces premiers versets de l'Apocalypse 6, nous avons deux seaux ici. Deux seaux qui sont ouverts. Le premier, je vous rappelle, ce n'est pas Christ qui monte le cheval, comme il y a certaines interprétations. Ce n'est pas non plus le diable qui fait quoi que ce soit, comme il y a d'autres interprétations. C'est simplement pour montrer que les temps sont arrêtés. Le cheval a toujours été un symbole de guerre. La course ici du cheval montre que les temps sont déterminés par Dieu. Quand le premier seau est ouvert, Dieu a dit maintenant, ça suffit. Les sept ans que j'ai déterminés dans ma parole vont se dérouler tel que c'est écrit dans ma parole. C'est très étonnant de voir combien Dieu va nous donner des détails précis sur ce qui va se passer sur ces sept ans. Parfois, ça peut même nous surprendre de voir autant de détails. Dieu est bon. Parce que Dieu aura donné sa grâce pendant plusieurs milliers d'années. Là, on en est déjà en 2000, on a presque 2000 ans déjà, depuis que Jésus est ressuscité. Et Dieu donnera encore la chance à ceux qui n'ont pas voulu croire en lui de se donner. Certains le feront, nous le verrons. Beaucoup ne le feront pas. Beaucoup se laisseront séduire. Mais Dieu donnera encore sa grâce et les gens n'auront encore pas l'excuse parce qu'ils auront tout écrit d'avance. Donc, ce temps est arrêté d'avance, personne ne changera ces événements prophétiques. Dieu a décidé de ce qui se passera. Et comment il va faire pour récupérer la gestion de la terre? En sept ans, Dieu va récupérer sa propriété. Et croyez-moi, il ne va pas y aller, comme on dit en français, avec le dos de la cuillère, c'est-à-dire doucement. Il va y aller très fortement. Là, après, on voit qu'il va y avoir quoi? Il va y avoir pas de paix sur la terre. Les gens vont se tirer dessus, entre guillemets. Ils vont se battre. Lisons en parallèle Matthieu 24. Mais je vous rappelle que Matthieu 24 concerne la tribulation. Au verset 3,
murongo wa gatatu,
il est dit, il s'assit sur le mont des Oliviers et les disciples vinrent en privé lui dire, dis-nous quand cela arrivera, quand le temple sera détruit, nous l'avons déjà vu, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Alors, verset 4, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ. Donc il y aura des faux Christ, ok. Ils séduiront beaucoup de gens, regardez bien ici, des faux Christ, séduire beaucoup de gens. Nous verrons tout cela dans l'Apocalypse. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Bah tiens, vous avez bien vu le deuxième saut. Qu'est-ce que c'est? Les nations qui se battent entre elles. Guerre et bruit de guerre. Gardez-vous de vous alarmer car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation. Un royaume contre un royaume. Et il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. Regardez bien ce que Jésus dit ici. Verset 8, ce ne sera que le commencement des douleurs.
Ngo yicaye ku musozi wa Elayono abigishwa be baramwegera bihereranye baramubaza bati tubwire ibyo bizobaho ryari kandi kimenyetso kizoba ikico kuza kwawe inica umuhero w'isi Yesu arabishura ati mwirinde ntihagire ubazimiza benshi bazoza mu izina ryanje bati ni jewe Kristo kandi bazozimiza benshi muzokumva intambara n'impuha z'intambara mwirinde ntimuhagarika imitima kuko bitazobura kubaho ariko umuhero uzobutaraza kuko ihanga rizotera irindi hanga n'ubwami buzotera ubundi bwami amapfa no kunyiganyiga kwisi bizobaho henshi ariko ivyo byose ni itanguriro yo kuramukwa.
Donc ici c'est très clair.
Aha rero biratomoye.
Il y aura du chaos, mais c'est que le début.
Hazo ni itanguriro gusa y'ingorane.
Le deuxième saut, l'ange a le pouvoir de retirer la paix sur la terre.
Ikimatanije gitabo cha kabiri kiboneka umumareka kura amahoro mwisi.
Les nations se rentrent dedans.
Maze amahanga atangura kugwana
hagati. Donc beaucoup de guerre.
No kuvuga intambara nyinshi.
Beaucoup de guerre.
Intambara nyinshi nyinshi.
Verset 9, il est dit alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Ça parle de gens qui vont se donner à Christ pendant la tribulation. Et ce sera beaucoup pour beaucoup, une occasion de chute. Ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et en raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ici, il y a plusieurs choses qu'il faut qu'on comprenne. Là, on parle de la tribulation. Ça ne parle pas des temps de l'Église. Je sais que beaucoup ont prêché là-dessus comme si c'était pour les temps de l'Église. Ça n'a rien à voir avec le temps de l'Église. Ce sont des gens qui vont se donner à Christ pendant la tribulation. On va regarder ce que Jésus dit dans Matthieu 24, et puis vous allez voir au fur et à mesure de l'Apocalypse, de temps en temps, je ferai appel à ce passage. Ce que je veux, c'est déjà de vous redonner une image globale, parce que sinon, c'est trop complexe. Donc en fait, on vous livrera au tourment. Ça veut dire que des gens qui vont se donner à Jésus pendant la tribulation. Rappelez-vous, tant qu'on a la grâce, c'est facile. Tant que nous sommes dans le temps de l'Église. Dieu propose. L'homme accepte ou refuse. Là, les gens vont être sous des pressions gigantesques. Nous allons le voir au travers des sceaux. Vous savez, quand il y a une mauvaise nouvelle dans le monde, les gens dépriment. Mais là, ce n'est pas une mauvaise nouvelle qu'il y aura. Ça va être des mauvaises nouvelles après mauvaises nouvelles après mauvaises nouvelles. Là, on parle d'un ouragan qui est passé sur New York ces derniers jours. Mais imaginez-vous s'il y avait 200, 500, 5000 ouragans qui passaient. Le monde serait envahi de mauvaises nouvelles. Et s'il y avait des gigantesques crises économiques en même temps, avec des guerres au milieu. Et ça, c'est que le début, le chaos complet. Mais le chaos partout. Pas une nation ou une autre. Aujourd'hui, par exemple, dans les années 90, nous avons vécu beaucoup de guerres ici en Afrique. Beaucoup de gens ont fui vers où? Des pays où il y avait la paix. Mais imaginez-vous, on est dans la guerre et tu ne peux pas fuir dans un autre pays parce qu'il y a encore la guerre ailleurs. Et ni dans un autre parce qu'il y a aussi la guerre. Et il y a des crises économiques partout. Nous allons voir. La Bible va nous en parler. Donc là, c'est le début, simplement. Persécution pour ceux qui vont quand même se donner à Jésus. Ils vont avoir un goût amer. Parce qu'ils vont se convertir. Mais s'ils ont lu un tant soit peu la Bible, alors que c'était encore le temps de l'Église, qu'ils ont vu l'enlèvement, croyez-moi, ces gens-là vont être sous choc. Ils vont crier à Dieu. Mais on va les persécuter. La Bible nous en parle. Ensuite, plusieurs prophètes vont s'élever. Et il va y avoir l'iniquité, l'injustice, le péché va augmenter, mais d'une façon gigantesque. Parce que dès les premiers jugements de Dieu, il va y avoir deux fronts. Les gens qui vont se convertir et les gens qui vont tout faire parce qu'ils vont être des instruments du diable pour éradiquer la connaissance de Dieu sur la terre. Satan va les agiter comme il n'a jamais agité les populations du monde. Le diable sait qu'il aura peu de temps à ce moment-là. Il va tout faire pour qu'un maximum de gens le suivent. La Bible nous dit au verset 12 qu'un grand, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Là, c'est des gens qui vont accepter le Seigneur. Mais aussi, il va y voir l'Antichrist et la bête qui vont être là. Et si ces gens, même qui sont sauvés, craquent, moralement, spirituellement, dans tous les sens, et qu'ils acceptent la marque de la bête, nous le verrons, et bien ces gens ne seront plus sauvés, ils perdront leur salut.
Et
c'est ça que ça veut dire ici. Ça n'a rien à voir avec nous les chrétiens. Ces gens-là perdront leur salut parce qu'ils renieront Jésus sous la persécution. Mais nous verrons que dans la grande tribulation, il y aura deux choix. Soit continuer à marcher avec le Seigneur, mais avec la menace constante de perdre sa vie, d'être persécuté, d'être torturé pour sa foi, ou alors d'avoir la marque de la bête et de perdre son salut. C'est ce qui se passera, nous le verrons. Jésus ici explique exactement ce qui va se passer dans la tribulation. Nous allons voir au fur et à mesure que nous allons avancer, vous allez voir dans l'Apocalypse. D'abord, après, il dit, verset 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Voilà ce que Jésus dit. Donc, même dans la tribulation, c'est clair, l'évangile sera prêché partout, partout, partout. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi dans le lieu saint, que le lecteur fasse attention. Ça s'adresse, non pas à nous, mais à ceux qui seront pendant la tribulation et qui vont se convertir. Ils auront tout ce qu'il faut pour continuer et pour être sauvés, mais ils vont payer cher.
Nuko muzobonera cyakizira cy'ubuyobe bw'ubugesera gihagaza ahantu hera cyavuzwe na Daniel yavugishwa n'Imana usoma niyubare.
Et cette abomination de la désolation établie dans le lieu saint, c'est quand l'Antichrist va se retourner contre Israël, nous le verrons. Qu'il va établir son gouvernement mondial et qu'il va souiller le temple, remplir le temple de Jérusalem qui, je vous rappelle, n'a pas été reconstruit encore. Et de là, l'Antichrist avec le faux prophète vont amener une activité satanique sans précédent. Vous voyez, il va y avoir l'activité divine et l'activité satanique. Et Jésus va parler après, on va passer quelques lignes, quelques versets. Et après, Jésus va nous parler d'un temps de tribulation très particulier. Verset 21, il dit, car alors, il y aura une grande tribulation, tel qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura jamais plus. Donc regardez bien cette expression « grande tribulation ». Parce que nous allons découvrir que la tribulation qui dure 7 ans va être coupée en deux parties. La tribulation au départ, ce sont les jugements de Dieu qui descendent sur la terre, ce que nous sommes en train d'étudier dans les sceaux, là, les premiers
sceaux.
Satan va réagir. La terre va être dans un chaos gigantesque. Beaucoup d'hommes vont mourir. Mais au bout d'un moment, il va y avoir 10 nations qui vont se mettre ensemble dans cette première partie. Et comme nous le verrons, il va y avoir une nation, un roi qui va se lever. Et la Bible nous décrira ça dans Daniel 7, on verra ça dans quelques minutes, comme la petite corne qui va se lever. Ça va être en fait un leader qui va se lever et qui va amener entre guillemets des solutions sataniques aux problèmes de la terre. Et c'est là où les gens vont commencer à être séduits par cet homme. Et c'est là où l'Antichrist va commencer à monter. Mais il va prendre les pleins pouvoirs dans la deuxième partie de la tribulation qu'on appelle la grande tribulation. C'est là où il va établir pleinement un gouvernement mondial à Jérusalem. Et pour ce faire, il va s'élever et la nation dont il sera issu va écraser 3 nations parmi les 10 nations. Puis cet homme va faire alliance avec Israël. Et à un moment, il va se retourner contre
Israël.
C'est-à-dire qu'il avait un agenda caché, comme vous dites ici. Et la nation d'Israël, qui pensera être protégée dans ces moments difficiles, va se retrouver piégée par cet antichrist et le faux prophète. Et qu'est-ce qui va se passer après? Eh bien, l'antichrist va pouvoir régner à Jérusalem, souiller le temple. Et c'est là où ça va être une très très grande persécution contre ceux qui se seront donnés à Christ. C'est pour ça que Jésus va dire un peu plus loin que si jamais ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne pourrait être
sauvé.
Parce qu'il va y avoir des pouvoirs terribles sataniques. Disons ensuite le verset 22, si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, parce que ces gens sauvés sauront que Jésus doit revenir. Il est là, oui, il est ici, oui, là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes qui opéreront de grands signes et des prodiges au point de séduire, si possible, même les élus. Je vous l'ai prédit. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les champs. Ne le croyez pas. En effet, comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Et où le cadavre, là où est le cadavre, là aussi s'assembleront les aigles. On expliquera ça un peu plus tard. Donc Jésus explique ici clairement qu'il va y avoir une montée du satanisme. Des faux prophètes, des faux Christ. Mais il va y avoir l'antichrist qui lui va travailler avec un faux prophète. Nous verrons qu'au milieu de cela, Dieu va susciter 2 hommes,
2
puissants hommes de Dieu, qui seront les 2 témoins de l'Apocalypse. Et ils auront vraiment une onction absolument extraordinaire. Ils feront des signes et des prodiges comme Élie et Moïse. Mais au bout d'un moment, nous verrons qu'ils vont être tués. Et ils vont ressusciter au bout de 3 jours. Et ça sera un grand signe pour beaucoup d'inconvertis. Puis nous verrons qu'il y aura les dernières batailles finales. Et c'est là où Jésus reviendra, c'est ce qu'il vient de nous dire ici. Avec puissance, et nous serons avec lui. Israël se sera fait avoir. Ils seront au bord du gouffre. Mais dans la première partie de la tribulation, quand même, 144 000 Israélites seront sauvés. sauvés. Nous le verrons un peu plus loin dans l'Apocalypse. Et juste à la fin de la grande tribulation, là, il va y avoir un grand réveil dans Israël. Et ils vont reconnaître le Messie. Et ça sera un très très grand réveil parmi les Juifs. Donc rappelez-vous, dans la tribulation, il n'y a que des inconvertis au début. Donc les deux réactions, soit les gens se convertissent, soit ils ont de la haine contre Dieu, qui va grandir de jour en jour. Les gens vont avoir peur. Partout, ils vont avoir peur. Nous avons vu que le péché va se manifester comme jamais. Satan va tout faire pour éradiquer la connaissance de Dieu sur la terre. Donc nous avons vu, il y a deux parties dans la tribulation. Beaucoup d'êtres humains vont mourir sous les jugements de Dieu, comme nous allons le voir. Et nous avons vu ce qui va se passer pour Israël. Revenons maintenant à Apocalypse. Je reviendrai souvent pour vous redonner l'image globale de la tribulation, parce que alors, sinon, on va s'enterrer dans les détails. Et ça, c'est le piège quand on étudie les prophéties de la fin des temps. Les gens s'enfoncent dans les détails sans à chaque fois prendre du recul. Vous savez, c'est comme un tableau.
Une belle peinture.
Bon. Si c'est une grande peinture qui est, je sais pas, qui est mise sur un mur, si vous êtes très près, vous pouvez voir des détails. Le problème, c'est quand vous voyez les détails, vous n'arrivez plus à voir l'image globale. Donc, pour vraiment apprécier de l'art, un grand tableau, il faut savoir le regarder de près. Mais il faut aussi prendre du recul pour avoir l'image globale régulièrement. Sinon, vous ne pourrez jamais apprécier un grand tableau. Donc le premier jugement, nous l'avons vu, le premier saut, pardon, c'est vraiment les temps sont arrêtés et ça se passera, personne ne pourra changer ça. Le deuxième, c'est les guerres. Donc ce que Jésus a dit au début de Matthieu 24. Verset 5 maintenant d'Apocalypse 6. Il est dit, quand j'ouvris le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant, donc toujours le chérubin, qui dit à Jean, donc viens. Je regardais, voici paru un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Verset 6. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et trois mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais pas de mal à l'huile et au vin.
Ngo kandi amenye cya gatatu kimatanije cya gitabo numva ikigira gatatu mu binyabugingo kiti ngwino mboni farasi yagafyiri kandi uyicaye ko yari afise umunzane mu minwe numva hagati y'ibyo binyabugingo bine nk'ijwi rivuga ritingero imwe y'ingano ni denari denariyo ningero zitatu za sayiri ni denari denariyo ariko amavuta na vino ntugire icyo bikora ko.
En fait, l'idée ici c'est quoi? C'est qu'il va y avoir une crise économique sans précédent. C'est étonnant parce que ces choses deviennent possibles, entre guillemets, maintenant. Dans les temps où nous sommes. Dans les moyens de communication dans lesquels nous sommes. Quand il y a des mauvaises nouvelles économiques, on le sait dans le monde entier. Cela crée du désordre sur les places financières, les bourses, du monde entier. Des choses peuvent augmenter comme ça, peuvent doubler, tripler. Des choses vitales. De la nourriture dont on a tous besoin. Du pétrole qui nous aide à nous déplacer. Des matières premières dont nous avons tant besoin. Et là, ça sera sans précédent. Et ça sera mondial. D'un seul coup, il va y avoir une immense crise. Il va y avoir des guerres partout dans le monde de plus en plus. Mais, crise économique gigantesque. Des crises économiques sans précédent. Et c'est mondial. Alors évidemment, devant cela, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont commencer à se poser des questions. Ils vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que ce sera mondial. Là, vous voyez, nous vivons depuis 2008 une crise. Les États-Unis ont commencé à être en récession. C'est vraiment très longtemps.
Ils
n'avaient pas connu ça. Bon, on pensait que la Chine allait progresser, et ben ils sont en train de ralentir. L'OPEP au niveau du pétrole fait attention parce qu'ils se disent si on augmente trop nos prix.
Ça
va avoir des menaces des autres pays. Donc tout le monde essaye quand même de faire attention. Quand ça va trop loin, on tire la sonnette d'alarme. Et chacun restreint ce qu'il a envie de faire. Mais ça
ne
sera plus le cas. Dans ces temps-là, ça va être une immense crise économique. Mondiale. Je vous dis ça parce qu'il y a quelqu'un qui va commencer à faire des choses. Il y a une nation qui va d'un seul coup guérir surnaturellement. Dont l'Antichrist sera issu, bien sûr. C'est là où il a commencé à tromper les gens. Mais là, nous en sommes dans tout le monde subit les mêmes choses. Parce que c'est le début de la tribulation. Et puis Dieu va frapper encore. Et là, il va frapper beaucoup plus fort. Verset 7. Il est dit, quand il ouvrit le quatrième sceau, on est au quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, viens. Verset 8, je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, regardez bien, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre.
Ngo kandi amenye icya kane kimatanije ico gitabo numva ijwi ry'ikigira kane mu binyabugingo kiti ngwino mboni farasi benjutse kandi uyica ko yitwa rupfu kuzimu nawe aramukurikira bahabwa ububasha ku kigira kane cisi ngo babicishe inkota n'inzara n'urupfu n'ibikoko byo kwisi.
Imaginez-vous un peu. Si aujourd'hui un quart de la terre périssait.
Iyumvira ikigira kane cisi cishwe.
Un quart de la terre. Ce serait plus d'1,5 milliard de personnes qui mourraient. Rappelez-vous, juste avant cela, les inconvertis auront vu peut-être plus de 500 millions, voire plus encore, de tombes ouvertes. Ça va passer, ça va se passer très rapidement. L'enlèvement et la résurrection des morts se passent en un clin d'œil. Dieu ouvre le premier
sceau.
Les temps sont arrêtés. Les guerres commencent à éclater. On ne sait pas pourquoi les nations se battent ensemble. Il y a une crise économique mondiale sans précédent. Tout le monde se retrouve avec des problèmes économiques gigantesques. C'est un chaos qui commence, qui est total. Et là, d'un seul coup, Dieu fait mourir. Là, c'est Dieu. Je dis bien, là, c'est Dieu. Fait mourir un quart des hommes sur la terre. D'un seul coup. Imaginez ce monde. Rappelez-vous, Dieu a dit, ça suffit. Je vous rappelle que Dieu est un Dieu d'amour. Mais Dieu aussi est un Dieu de jugement. Il aime les êtres humains. Il a envoyé son fils. Les gens se sont moqués de lui. Ils ont craché sur lui. Ils l'ont insulté. Le Seigneur est celui qui a été le plus insulté et repoussé. C'est quelqu'un qui est sans défaut, qui est parfait, qui est Dieu, qui a créé toutes choses, et c'est lui qui a été le plus repoussé, celui qu'on a le plus insulté dans ce monde. Il y a des pécheurs qui ne croient même pas en Dieu et qui toute la journée insultent Dieu. Ça vient d'où? L'esprit du monde. le prince de la puissance de l'air,
l'ennemi
de Dieu, qui suggère ça aux hommes. Et Dieu dira au début de la tribulation, maintenant j'envoie mes jugements. Un quart des hommes vont disparaître. Un quart des hommes vont disparaître. Verset 9. Il est dit, quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Verset 10. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusque à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger, à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Verset 11. Une robe blanche leur fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux.
Ngo kandamenye cya gatano kimatanije ico gitabo mbona munsi igicanira impwemu z'abishwe babahora ijambo ry'Imana no gushinga intahe bari bafise batakambisha ijwi rirenga bati data buja wera w'ukuri uzogeza ryari kudaca amateka no kuduho no kudahora abari mwisa amaraso yacu.
Alors ici ça parle encore des gens qui vont mourir pendant la tribulation.
Urumva kandi baravuga abantu bazopfa muri iyo myaka
yihana. Et qui ont accepté le Seigneur.
Bemeye umwami kumwakira.
Je vous l'ai dit et je vous le redis, il y a des gens qui vont accepter le Seigneur pendant la tribulation.
Narabivuze ndabisubiramo hari abantu bazokwihana mu gihe cy'ihamwa.
Un certain nombre d'entre eux vont mourir.
Bamwe muri bo bazoca bicwa.
Ce sont les martyrs de la tribulation.
Aboni abamartiri bo mu gihe cy'ihamwa.
Et là vous voyez leur cri.
Aho urabona ingene batakamba.
Je pense que la plupart d'entre nous, la grande majorité d'entre nous, quand on sera au ciel, on ne dira pas de telles choses. Jusqu'à quand tu vas tirer vengeance, Seigneur, de ceux qui nous ont mis à mort? Mais eux, vraiment, auront beaucoup souffert. Pendant la tribulation,
franchement,
ceux qui vont se donner à Christ
vont
vraiment beaucoup, beaucoup souffrir. Et il y en a un certain nombre, pendant les 7 ans qui vont se convertir, il y en a un certain nombre qui vont mourir et qui vont aller au troisième ciel. On les verra venir, nous qui serons déjà là-haut, au fur et à mesure. Par contre, il y en a d'autres qui ne vont jamais mourir, qui ne seront pas morts à la fin de la tribulation, comme nous le verrons. Et ce sont eux d'ailleurs qui peupleront une partie de la terre avec nous, bien sûr, mais ce sont eux qui entreront dans le millénium avec leur corps non ressuscité. Donc là, je vous donne encore des choses dont on va se resservir un peu plus loin, pour que vous puissiez bien comprendre. Donc, la Bible nous dit jusqu'à ce que soit complet leurs compagnons de service, verset 11, vous voyez, et leurs frères qui allaient être mis à mort comme eux. Donc il y a un certain nombre de gens qui vont mourir, qui se seront donnés à Christ. Alors, verset 12, il est dit, je regardais quand il ouvrit le sixième sceau. Il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Il disait aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est sur le trône, et regardez bien, et devant la colère de l'agneau. » Verset 17. « Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ?»
Ukandi mbonameni cha gatandatu kimatanije ico gitabo isiratigita cyane izuba ririrabura nk'igunira ry'ubwoya ukwezi kose guhinduka nk'amaraso inyenyeri zo kwijuru zikorokera hasi nk'uko umusukoni uzungagizwa n'igihuhuta ugahungurura imisukoni zawo zitararunguriza ijuru ririzinga nk'umuzingo w'igitabo kizinzwe imisozi yose n'ibizinga byo mu kiyaga byose bikugwa ahantu havyo abami bo mu isi n'abaganwa n'abakuru babagabisha babasoda n'abatunzi n'abanyenkomezi n'abagurano bose n'abidegembya bose binyegeza mu masenga no mu bitandara byo ku misozi babarira imisozi n'ibitandara bati nimutugwe ko muduhishe inyonga z'ibyagiye kurya ntebe n'uburake bw'umwagazi w'intama kuko umunsi uhambaye w'uburake bwabo ushitse kandi ninde ashobora guhagarara.
Alors ici on voit clairement des gens inconvertis.
Alors turabona abantu batizeye
comprendre tout à fait ce qui se passe.
Batangura gutahura ibintu biriko birabivyo ari byo.
Parce que le monde sait, mais là il saura davantage.
Kuko isirazi ariko iki gihe izo biri kuratahura.
Ils sont dans un temps de tribulation.
Ko bari mu bihe byihamwa.
Et là il parle bien que c'est la colère de l'agneau.
Kandi baravuze neza ngo uburake bw'umwana.
C'est des inconvertis qui parlent.
Abana badakijijwe n'abapagane
bavuga. Ce sont des inconvertis qui parlent.
N'abantu batizera bariko barabivuga
ngaha. Et qui disaient vaut mieux qu'on meure maintenant parce qu'on va tellement souffrir de ça.
Bavuga bati nimutugwe ko mwamisozi dufume twifira kuko uburake bw'umwana.
Mais ce sont des inconvertis qui parlent et qui refusent de se repentir.
Bariko baravuga mugabo ntibagomba kuhinduka.
Vous savez, parfois il y a des gens qui sont étonnants dans cette vie.
Erega hari abantu rimwe namwe batangaje muri buno buzima.
Il y a des gens qui souffrent toute leur vie.
Hari abantu bababazwa ubuzima bwabo bwose.
Et à qui on prêche l'évangile.
Bakababwira ubutumwa bwiza.
Tout le temps.
Umwanya wose.
Et qui refusent de se donner à Christ.
Ariko bakanka kwihana kwa
Kristo. Ça pour moi ça restera toujours un grand mystère.
Kuri jewe namba numva ari ikintu kinyegejwe.
Des gens qui ont loupé leur vie, qui ont été des échecs totaux.
Abantu bona ku buzima ntacho bigeze bashika ko mu buzima.
Qui sont malades depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans.
Imyaka 20, 30, 40 ayibayemo agwaye gusa.
Qui n'ont rien, je dirais, à gagner dans ce monde.
Muri no sinacho afise yungukamwe na kimwe.
Dans le monde présent.
Muri no situbayemo
mbere basanga. Ou vécu des choses terribles.
Yaranamutaye isi yaramutaye aba mu bintu
bigoye. Qui vous annonçait l'évangile?
Ugasangura ababwira ubutumwa bwiza.
Pendant des années.
Imyaka igahera.
Et qui refuse de se convertir.
Ariko akanka kwihana.
Ça personnellement, ça me dépassera toujours.
Ibyo je bizokwama bintangaza imisozi.
Je trouve ça absolument je n'arrive pas à comprendre.
Byama bingora gutahura ibyo bintu.
J'arrive pas à comprendre.
Byama binanira gutahura.
Des gens qui vraiment sont des échecs.
Abantu ugasangura abona ko ntacamaze mwisi.
Qui ont vécu des choses terribles.
Urumva yabaye mu bintu bigoye bikomeye.
Et qui ne veulent pas croire en Dieu.
Ariko ntagomba kwizera.
Et crier à sa miséricorde.
Ntagomba kwambaza Imana.
Ici on voit que c'est les inconvertis.
Aha turabona ko ari abantu batizera.
Qui disent cela, ils savent ce qui est en train de se passer.
Babona neza ko bikomeye byabakomeranye
mwisi. Il y a beaucoup d'inconvertis qui sauront exactement ce qui va se passer dans la tribulation.
Hari abantu batizeye batizera bazomenya neza ibiriko biraba mwisi ibyo ari byo.
Et qui refuseront de se convertir.
Ariko bazoguma banka.
Alors une autre chose aussi,
kandi,
c'est qu'il est parlé des étoiles qui tombent. La Bible ne peut pas parler de choses physiques. Parce que vous savez, une étoile, c'est beaucoup plus gros que la Terre. Et c'est extrêmement loin. Ici, vous ne pouvez pas interpréter ça d'une façon physique directement. Les étoiles sont d'immenses boules de gaz. Et si elles tombaient directement sur la Terre, elles engloutiraient toute la Terre et en une fraction de seconde, il n'y aurait plus rien de vivant sur la Terre. Donc vous ne pouvez pas interpréter ça littéralement. Alors on peut plus interpréter cela dans, je dirais, une activité spirituelle très importante. Parce que même si c'était le soleil qui d'un seul coup ne brillait plus, vous savez, si le soleil s'arrêtait de briller, la terre serait gelée. La terre serait complètement gelée. En très très peu de temps. En très très peu de temps. Le soleil régule la température de la terre.
D'une
façon calculée divinement. C'est très précis, vous savez. Il
n'y
a que sur la Terre qu'il y a de la vie. Et une température où il peut y avoir de la vie biologique. Quand tout est gelé, il ne peut pas y avoir une vie biologique et d'êtres vivants qui respirent. C'est pour ça d'ailleurs que sur les autres planètes, il n'y a rien. Et sur certaines autres planètes, il fait 300 degrés. Ou plus, 500 degrés, 1000 degrés.
Si
vous arrivez à vivre sur une planète à 300 degrés, vous m'appelez, on ira ensemble. C'est incroyable de voir comment notre planète est régulée par le soleil.
Et
si le soleil s'arrêtait de briller du jour au lendemain, je vous assure, ce serait une catastrophe. Ce serait le gel total. Il
n'y
aurait plus de vent sur la terre. Parce que ce qui crée l'atmosphère, ce qui crée la pluie, ce qui crée tout ce qui tourne, que l'on voit, on ne s'en rend même pas compte. Tout ce qui va créer les mouvements dans l'atmosphère,
donc,
c'est le soleil, c'est la chaleur, les échanges de chaleur.
Et
nous, on est tellement habitués à ça.
Il
pleut, il fait beau, il y a du vent, la température est fraîche, c'est chaud, etc. On est tellement habitués à ça. On ne s'en rend pas compte. Donc, ça ne peut pas être physique. Il n'est pas possible. Donc là, c'est clair que la constatation, c'est qu'il y a des puissances spirituelles qui vont ébranler la terre. Et ça, c'est ce qu'on peut conclure de ce passage. On ne peut pas dire que cela vient directement de choses naturelles. Parce que si vous interprétez ça directement d'une façon naturelle, franchement, là, je n'ai pas d'explication. Tous les hommes mourraient directement. Avec une seule étoile qui tomberait sur la terre, tout serait brûlé. Tout serait brûlé de A jusqu'à Z.
Parce
que la terre, c'est toute petite par rapport à cette étoile. Et tout serait brûlé, il n'y aurait plus de vie physique.
Donc,
ça s'arrêterait et là, ça serait la fin à ce moment-là. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas interpréter cela littéralement. Donc, nous sommes arrivés au sixième saut. Et après, il va y avoir une parenthèse. Une parenthèse que Dieu va faire. Et cette parenthèse, c'est en fait des Juifs et des païens sauvés pendant la tribulation. Et c'est là où il va y avoir les fameux 144 000. Donc nous allons lire Apocalypse 7, du verset 1 au verset 8. Et là, ça va nous parler de la conversion d'un certain nombre d'Israélites pendant la première partie de la tribulation. Après cela, je vis quatre anges, debout, aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre, afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Verset 2. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges et à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit : Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000, marqués d'un sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Asser, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Simeon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issachar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000. Marqués du sceau. Alors, ici, on va voir, on nous parle d'Israélites sauvés. Il y a certaines choses qui sont très difficiles à interpréter dans ces passages. On nous parle de quatre anges qui se tiennent aux quatre coins de la terre. Et il ne souffle pas de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. On peut simplement, à mon avis, interpréter cela dans le sens où Dieu va pour un temps arrêter pendant la tribulation ses activités de jugement.
ibihe byihamwa biriko biraba.
C'est la seule explication que je pourrais donner ici, l'aspect de souffler, c'est pas un vent physique.
Niyo nsobanuro notanga imiyaga ihuha si umuyaga mu buryo bufatika uyitubona ngaha.
Mais c'est à mon avis simplement l'activité de jugement de Dieu en attendant que ce que Dieu veut faire sur les Israélites soit fait.
Akubganje ni ibikorwa by'urubanza Imana iri kwiraca bizoba bihagaze gato, Imana ibirahagaritse gato ibikorwa biriko biraba byihamwa.
Parce que vous voyez, il est dit plus loin, et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, qui se tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges, à qui avait été donné de faire du mal à la terre. Vous voyez, ces anges avaient été commissionnés pour faire du mal à la terre. Ne touchez pas à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu.
Kandi mu marayika wonda duga aviburasirazuba afise ikidomesho cy'Imana nzima asemera n'ijwi rirenga abarira baba marayika bane bahawe kono n'isi n'ikiyaga ati ntimugire ico mugira isi canke ikiyaga canke ibiti tutaradoma ikimenyetso mu ruhanga rw'abagurano b'Imana yacu.
Alors, ici on voit clairement que ces anges pour un temps ne doivent pas faire de mal.
Aturabona ko igihe kanaka aba
aux habitants de la terre.
Batashobora kugira nabi ababa mwisi.
Ensuite nous voyons que il y a 144,000 parmi les juifs qui sont sauvés.
Hama tubona hari aba ibihumbi 144 mu bayuda bakizwa.
Et alors il y a beaucoup de questions sur ce passage.
Hari bibazo byinshi rero kuri aba bantu kuri iki gitigiri.
Alors d'abord si vous avez un temps soit peu étudié la doctrine des témoins de Jéhovah.
Nimba warize warumvise ivyabona vya Yehova
bigisha. Qui sont fanatiques des 144,000.
N'abantu bakunda cyane iki giharuro.
Nous dirons qu'il y a que 144,000 de personnes qui seront sauvées.
Bakubwira yuko hari abantu 144,000 gusa bazokizwa.
Je ne sais pas d'où ils tiennent ça, ils ont pris ce passage là, ils l'ont complètement tordu, ça n'a rien à voir.
Sinzi yo babikuye bafashe iki gice bapfa kugisobanura uko
babyumva. Parce que là on parle de 144,000 d'abord du peuple d'Israël.
Kuko ngabavuga abantu 144,000 bo mwihanga d'Israël
qui vont être sauvés.
Bazokizwa.
Alors maintenant, il y a plusieurs questions qu'on peut se poser.
On
va se dire, est-ce que il va y avoir 144,000 juifs seulement qui vont être sauvés?
Parce
que quand vous étudiez l'histoire de l'Église, frères et sœurs, vous pourrez relire les Actes des Apôtres. On peut dire qu'il y a très peu de juifs qui ont été sauvés. Au début, on voit, tout au début des actes, on voit une église qui est très judaïsante. On voit que la première église qui a été créée, c'est où? C'est l'église de Jérusalem. Mais très rapidement, on voit le nombre de gens, de païens, donc, qui vont se convertir, qui vont se donner à Christ, augmenter d'une façon radicale et qui vont très rapidement dépasser le nombre des juifs. Les racines du christianisme sont à partir des juifs puisque le salut vient des juifs. Jésus est juif, descendant de David et descendant d'Abraham.
Et
c'est au travers de Jésus que nous sommes sauvés. Nous le savons tout cela. Mais on voit que quand Jésus va prêcher partout, de ville en village, sur tout le territoire d'Israël, et c'était sa priorité. Jésus dit que ma priorité, j'ai été envoyé pour prêcher seulement aux villes et aux villages d'Israël. La bonne nouvelle devait d'abord être annoncée à tout Israël. C'est ce que Jésus a fait pendant 3 ans et demi avec ses disciples. Ensuite, nous savons, Jésus meurt, ressuscite,
part
au ciel, à la droite du Père. Et là, nous savons que c'est la dispensation de l'Église. Vous en savez des choses maintenant.
Hein.
C'est bien parce qu'il faut être instruit dans la parole de Dieu.
Mais
on voit l'Église qui démarre où? L'Église démarre à
Jérusalem.
Les premiers ministères, c'est à la Pentecôte, où le Saint-Esprit les visite. Ce sont les premiers ministères apostoliques apostoliques qui naissent. Pierre prêche, 3000 convertis. Ils sont tous de souche juive ou ce sont des prosélytes, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas juifs mais qui ont adhéré, embrassé la religion juive. Et puis nous savons que tout le sud d'Israël, ce qu'on appelait la Judée à l'époque, va être évangélisé.
Et après
on commence à parler de la Samarie.
Acte
8.
On
est juste à peine 2 ans après la résurrection de Jésus. Puis Paul se convertit dans Acte 9, à peine 3 ans après la résurrection. Et puis après, on a Acte 10, Pierre qui va chez Corneille, un païen. Et vous continuez à lire la Bible. Dans les Actes des Apôtres, vous avez une église qui n'est plus dans Israël, qui s'appelle Antioche, qui va naître parce que les Israélites vont fuir la persécution, les chrétiens israélites vont fuir la persécution. Et là, c'est l'église d'Antioche qui va devenir l'épicentre du christianisme, c'est-à-dire il ne va plus se passer grand-chose à Jérusalem, il va se passer plein de choses dans l'église d'Antioche qui n'est pas en Israël. Et c'est de là où l'apôtre Paul va partir. Il va partir, il va revenir, il va repartir, il va revenir.
Et
il va repartir encore. C'est à Antioche que ça se passe. Et après, ce n'est plus à Antioche, c'est à Éphèse.
C'est
ce que vous lisez dans les Actes des Apôtres. Et là, même 15 ans après la résurrection de Jésus. Dans Actes chapitre 15, les apôtres sont submergés par des problèmes de doctrine. La question dans Actes 15, la première fois où ils se réunissent dans ce qu'on appelle un concile, c'est-à-dire une réunion de responsables pour discuter. Dans Acte 15, vous allez retrouver la question majeure du jour. Les païens, donc les non-juifs qui se convertissent, sont tellement nombreux qu'ils nous demandent qu'est-ce qu'il faut faire avec la loi de Moïse. Et les apôtres sont obligés de répondre et discuter entre eux et de dire nous les Israélites on a échoué avec 1500 ans de loi de Moïse. Nous avons désobéi à Dieu. La loi n'a pas été pour nous une source d'obéissance. Comment est-ce qu'on pourrait imposer à ces chrétiens qui viennent de souches païennes d'observer la loi? Puis vous regardez les Actes des Apôtres. Tout se concentre sur une église de souches
païennes.
Toutes les églises qui sont fondées sont situées où? En Turquie? En Grèce? En Italie? Et on sait que le reste, ça va continuer dans toute l'Europe du Sud. C'est là où tous les gens vont se convertir. En Afrique du Nord aussi, un peu plus loin, à la fin du 1er siècle. Mais en l'an 70, rappelez-vous, Israël ne sera plus une nation. Et très peu d'Israélites, pendant presque 2000 ans, vont se convertir. Il y a très peu de juifs qu'on appelle juifs messianiques. Je ne sais pas combien il y a de juifs au ciel, c'est-à-dire des gens qui sont de souche de la nation d'Israël qui sont au ciel. Aujourd'hui, ils sont une proportion très faible par rapport à tous ceux des autres nations qui ont accepté Jésus. Mais dans la tribulation, il est prophétisé quelque chose. Il est prophétisé que d'abord, dans la première partie, il y aura 144 000 qui vont être sauvés. Maintenant, il y a une autre question qui se pose. Quand on lit ce passage, on sait qu'il y en a 12 000 de telle tribu, 12 000 de chaque tribu.
Il n'y
a que Dieu qui sait ça aujourd'hui. Parce qu'en Israël, on ne sait plus qui vient de quelle tribu, pratiquement. Je pense qu'il y a très très peu d'Israélites qui sont capables de faire leur arbre généalogique. Si ce n'est aucun d'entre eux, pour savoir de quelle tribu ils viennent. Donc la comptabilité ici, elle est divine, elle ne sera pas humaine. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'endroit où on dit telle tribu va dans tel endroit, telle tribu va dans tel endroit. Parce que les Juifs ne savent plus de quelle tribu ils viennent. Donc ici, nous le savons, il y aura 144
000.
Mais on ne peut pas dire que c'est pour toute la tribulation. Pourquoi ? Parce que comme nous le verrons, il va y avoir un immense réveil à la fin de la tribulation parmi les Juifs. Et un immense réveil ne peut pas être
144 000.
Apparemment, d'après ce qu'on peut lire dans l'Écriture, nous le verrons ensemble. Juste à la fin de la tribulation, alors qu'Israël sera au bord d'un mur, prêt à la destruction, où ils se seront fait avoir par l'Antichrist, avec qui ils auront fait alliance parce qu'ils pensaient que c'était un ami pour protéger Israël. Il va se retourner contre eux jusqu'à essayer de détruire cette nation. Et c'est là où les Israélites, juste à la fin de la tribulation, dans la deuxième partie de la tribulation, à la fin de la grande tribulation, c'est là où ils vont se convertir en masse. Il y aura un immense réveil. Paul en parle dans Romains. Et nous avons aussi des textes dans Zacharie qui vont nous montrer clairement que pratiquement toute la nation d'Israël va se tourner vers le Seigneur. Et c'est là où Jésus va revenir pour son deuxième retour. Et nous serons nous aussi montés sur des chevaux dans la cavalerie du Seigneur. On sera avec lui. Et vous verrez, la Bible nous dit qu'il va détruire l'Antichrist et toutes ses armées avec le souffle de sa bouche. Et on sera avec lui. Que le Seigneur vous bénisse.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous vous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.